What happened to again? Tu vois que rend la Bible sur tes genoux. Et bien, il va nous lire. Et s'il veut bien, il va nous lire le psaume 51. Comme ça, vous subirez un peu moins longtemps. Psaume 51, le psaume de David.
Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche en ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans la dépense. Et tourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas l'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Merci. Bon, dimanche dernier, la prédication qui nous a été donnée nous a parlé de la grâce. Et pour nous en parler, notre ami Edith s'est servi de deux grands hommes de la Bible. Il nous a parlé d'Abraham et il nous a parlé de David. Il nous a également parlé du psaume 51, psaume que Laurent a lu ce matin pour introduire la méditation. Et pourquoi j'ai repris ce psaume ce matin? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'avant que la grâce puisse être donnée à une personne, il faut que cette personne passe par la repentance. Et le psaume 51 est une démonstration de la repentance. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler de cette repentance. C'est un mot que l'on emploie souvent dans nos milieux évangéliques. Mais savons-nous exactement ce qu'il veut dire? Alors, si on prend le dictionnaire Larousse et que l'on regarde, Larousse nous dit que c'est le regret douloureux de nos péchés. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes censés savoir que le péché est le problème fondamental de l'homme. Et la Bible nous montre comment nous devons le traiter. Comment ? Eh bien, la Bible nous dit que nous devons le traiter avec la plus grande fermeté. Et il me semble à ce sujet que la définition du Larousse n'est pas suffisamment précise. Et que le regret douloureux, aussi douloureux soit-il, n'est pas suffisant. Il faut que ce regret nous entraîne sur un chemin, ce fameux chemin étroit dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Dans la Bible, le roi David a écrit le psaume 51. Et on pourrait presque dire que ce psaume nous décrit le chemin qui mène de la repentance au salut. Et justement, au salut par grâce, au salut gratuit, celui dont nous a parlé Élie. Et le psaume 51 est pour moi un de mes psaumes préférés. Peut-être parce que j'y retrouve, au naturellement, toute proportion gardée, mon propre cheminement. Alors pourquoi le roi David a écrit ce psaume? Eh bien parce que malgré que David ait été choisi par Dieu pour être roi, si nous regardons de près sa vie d'homme, nous allons nous apercevoir qu'il n'a pas été toujours ce grand roi plein de dignité et qu'à certains moments de sa vie, il a commis des actes dégradants. Et que parfois il a pris des positions pour le moins injustes et cruelles. En regardant la vie du roi David, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas fondamentalement bons, mais que bien souvent, nous nous laissons corrompre. David était un homme extraordinaire, et pourtant, il a commis de terribles crimes. Souvenons-nous, c'est écrit dans le deuxième livre de Samuel. Le texte nous dit que le roi David, à un moment de sa vie, a remarqué une femme qui était très belle. Et le texte continue en nous disant, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliab, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison et cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. La Bible continue de développer cette triste histoire où l'on apprend que David, ne pouvant pas faire endosser la paternité par Uri, un officier honnête qui refusa, après que David eut fait tout cela, de rejoindre son épouse, il va lui faire porter lui-même une lettre à son supérieur, et cette lettre n'est en fait qu'une condamnation à mort. Et après tous ces événements, Dieu va envoyer près de David un prophète, Nathan. Et nous lisons cela dans 2 Samuel, à partir du verset 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait en une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Et il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu se toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant et l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et alors Nathan, eh bien Nathan va dire à David, tuez cet homme-là. Un peu plus loin, il est dit, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle et enfanta un fils qu'il appela Salomon. Et qui fut aimé de l'Éternel. Alors, pour bien connaître cette histoire, parce que là, je vous ai lu quelques passages, mais je vous invite chez vous à lire dans le deuxième livre de Samuel, les chapitres 11 et 12. Et c'est en relation à cet épisode de sa vie que David écrivit le psaume 51. Et la grande vérité du psaume 51, c'est que la repentance est le moyen que Dieu aime, que l'homme utilise pour transformer sa vision du péché et accéder au royaume. Nous devons nous repentir simplement parce que nous sommes au bénéfice. Nous devons nous repentir simplement parce que nous sommes au bénéfice de sa grâce. Cela nous retrouvons dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous pouvons être justifiés parce qu'il a porté notre souillure. Nous pouvons être délivrés du sang versé parce que le Christ a versé le sien pour nous. Dieu détourne son regard de notre péché parce qu'il nous voit au travers du Christ. Et nos péchés, le Christ les a véritablement portés pour nous à la croix. Mais pour cela, il nous faudra toujours, avant, passer par la repentance. C'est un chemin obligatoire. C'est le chemin de la libération. Se repentir, c'est reconnaître l'ampleur de notre péché. Se repentir, c'est reconnaître notre culpabilité. C'est ce qu'a dû faire David. Et il le dit au verset 5 lorsqu'il écrit « Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. » La vie de David à ce moment-là est détruite par ses remords. Il est obsédé par sa culpabilité. De même pour nous, le péché nous blesse dans notre conscience. Il creuse en nous un vide immense. Le péché n'est pas une situation normale. On ne vit pas tranquille dans le péché. Souvent, Dieu, dans sa grâce, permet que le péché provoque des conséquences dramatiques dans nos vies pour que nous prenions justement conscience de notre état de faillite morale dans le monde et de la perte de notre vie éternelle dans le ciel. Juste après avoir dit « Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi », David va reconnaître envers qui il a péché. Il le dit au verset 6, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Avant tout, d'autre chose, David reconnaît que le péché est une transgression de la loi de Dieu. Le péché est donc et surtout et avant tout une attaque contre la volonté de Dieu. Et au verset 7, David va déclarer « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et je pense que là, il ne faut pas trouver une excuse à ce qu'il a fait. Et lui ne cherche pas une excuse non plus. Mais c'est tout simplement une constatation. Elle est biblique. Le péché est transmis par Adam à toute l'humanité. Dans Romains 5, 12, nous disons « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Adam était notre représentant devant Dieu. Et lorsqu'il a chuté, il a fait entrer le péché dans le monde. Et depuis, nous le portons en nous. Ce n'est donc pas parce qu'on pêche que l'on devient pécheur devant Dieu, mais c'est parce que le péché est en nous dès notre naissance qu'on est incapable de ne pas pécher devant Dieu. Est-ce que je répète? Ce n'est donc pas parce que l'on pêche, c'est pas parce que je pêche, que je deviens pécheur devant Dieu, mais c'est parce que le péché est en moi dès ma naissance que je suis incapable de ne pas pécher devant Dieu. Et Paul l'explique très bien d'ailleurs en Romains 7, lorsqu'il dit, à partir du verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Ce que Paul reconnaît vivre, David l'avait déjà vécu. Et nous, nous héritons de cette nature qui, avant même notre naissance, fait de nous des pécheurs. David est certes dévasté par ses actes, mais sa tristesse vient d'un constat encore plus fort. Ses actes ne sont que les symptômes d'un mal bien plus grand et bien plus grave. David est, par nature, pécheur. David a reconnu la puissance du péché en lui. Reconnaissons-nous, pour notre part, la puissance du péché en nous? Il m'a fallu bien du temps pour comprendre et admettre comment un homme aussi droit que David ait pu en arriver là. Et surtout, pourquoi il a fallu que Dieu le confonde par la bouche du prophète Nathan. Nathan a dû lui mettre le doigt sur son péché, tuer cet homme-là. Mais en fait, Satan est suffisamment puissant pour obscurcir les consciences, pour endormir notre conscience, au point d'anesthésier notre culpabilité. Nous nous lançons dans toutes sortes de raisonnements d'auto-justification perverse. Un peu à l'image de la fatigue qui nous gagne lorsque nous conduisons sur une autoroute, quand on fait un long voyage. Si nous ne nous arrêtons pas, la fatigue nous enveloppe et nous risquons de nous endormir. Cela vous est-il arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et cela peut nous amener à l'accident. Et l'accident peut nous amener à la mort. Eh bien, le péché, il est comme cela. Il nous enveloppe un peu à la manière de la fatigue. Il arrive doucement. Notre propre raisonnement déforme la réalité. Et si nous ne nous arrêtons pas sur le bord de la route, si nous ne traitons pas le problème, eh bien la mort est au bout du chemin. Jean 1, 14, 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et c'est pourquoi David s'écrit: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi, dis-je, purifie-moi de mon péché, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, délivre-moi du sang versé. Et là, David nous enseigne que la repentance, c'est vouloir avant tout être sauvé de ses péchés. Les péchés doivent être effacés. Il ne doit rien rester du péché et de ses conséquences. Pas seulement de ce qui nous paraît préjudiciable. Quand je me suis converti, j'avais une très grosse dépendance à l'alcool. Et j'en ai subi les conséquences pendant plusieurs années. Et si j'avais pu trouver un moyen d'annuler les conséquences de l'alcool dans ma vie et dans ma santé, eh bien j'aurais peut-être sauté sur l'occasion pour continuer de boire. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que je devais haïr ma dépendance parce qu'elle était en abomination aux yeux de Dieu. Se repentir, c'est vouloir être sauvé de tous nos péchés, pas simplement de ceux qui nous gênent. Si nous haïssons seulement les péchés qui ont des retombées négatives dans notre vie, nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu. Nous méprisons les meurtrissures que Christ a subies pour nous. Si nous ne voulons pas livrer une guerre à mort aux péchés dans notre vie, c'est que nous ne voulons pas que Dieu remplisse toute notre vie. Et personnellement, je crois que Dieu peut nous laisser croupir dans le péché parce que nous ne sommes pas prêts à tout abandonner. Et s'il agit ainsi, c'est pour que nous comprenions la monstruosité du mal qui est en nous et que nous demandions notre purification totale. Quand David reconnaît son péché, il reconnaît par la même occasion que Dieu est son seul espoir de délivrance. Dieu est le seul qui puisse guérir notre conscience du péché. Dieu est le seul qui puisse laver notre culpabilité et nous sauver de notre condamnation. L'homme ne peut pas lutter seul contre le péché, car il est prisonnier de celui-ci et il est à la merci de celui-ci. Se repentir, c'est demander à Dieu d'effectuer en nous un changement qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Cela, David l'a bien compris, et il l'exprime d'une manière formidable lorsqu'il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, rends-moi la joie de mon salut, de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. »
Quel verset,
Saint-Serge?
Hein? C'est quel verset,
Saint-Serge? Alors, c'est dans le psaume 51, mais je n'ai pas noté le verset là.
Ah, pardon, je vais
trouver. Bon, je te dirai après. Ouais, c'est pas grave. Ô Dieu, crée, c'est souvent ce que je le dis souvent dans ma prière, comme ça. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Merci.
Hein? Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Hein? Quelle confiance en Dieu et quel message libérateur! Mais ce qui était vrai pour David le reste d'autant plus pour nous qui, en plus, avons la chance de vivre sous la grâce. Non seulement Dieu nous pardonne, mais il crée lui-même en nous ce qu'il veut y trouver. Dieu ne nous demande pas de créer en nous, par nous-mêmes, un bon chrétien. Mais ce qu'il veut, c'est que nous lui demandions de le faire pour nous. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dieu est véritablement la source de notre salut et la source de notre transformation. Et nous avons la garantie que pour nous, Dieu produit son œuvre dans notre cœur et dans notre esprit. Nous avons la garantie que par la puissance de son esprit, notre vie sera transformée et qu'elle sera à l'image de ce qu'il attend de nous et que nous, sans lui, bien nous ne pouvons rien faire. Cela, vous pourrez le lire dans Jean au chapitre 15, les 14 premiers versets, où il parle « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et ça, vous pouvez le lire jusqu'au verset 14, où il parle de ce phénomène. Mais il serait injuste de croire que la repentance vise simplement le pardon de Dieu. Cela va bien plus loin. Son but principal est de permettre notre restauration, pour apporter à Dieu notre adoration. Dieu nous sauve. Et Dieu nous pardonne pour que nous devenions ses adorateurs. Le cœur de la vie chrétienne ne se limite pas à s'abstenir du péché. Mais la vie chrétienne, c'est vivre pour glorifier Dieu. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant ainsi gloire à Dieu le Père. Peut-on lire dans Colossiens 3, 17. C'est le verset que... J'ai été maire pendant deux mandats et j'avais ce verset inscrit en grand dans mon bureau. Mais quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant ainsi gloire à Dieu le Père. Et il m'est arrivé une ou deux fois à des gens, parce que vous savez, même dans les plus petites campagnes, il y a toujours des gens qui viennent proposer au maire de faire ceci en échange d'eux, etc. Et je leur montrais le verset que j'avais affiché dans mon bureau. Mais quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Rendant ainsi gloire à Dieu le Père. Se repentir, c'est aussi partager sa guérison spirituelle, accordée à Dieu, par Dieu, avec les autres. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ma langue célébrera ta miséricorde. Et ma bouche publiera ta louange, dit également David en ce psaume. David ne se contente pas d'être devenu un homme heureux et purifié, mais il veut faire de son expérience personnelle un témoignage pour apporter la guérison aux autres. C'est ce que nous demandons encore et toujours Dieu. Dieu nous demande d'être des témoins de sa grâce. Il demande de porter du fruit. Une dernière chose que je voudrais évoquer ce matin, Il m'est arrivé plusieurs fois au cours de ma vie chrétienne d'entendre dans nos églises des amis dire « J'ai dépassé les bornes. J'ai fait quelque chose d'impardonnable. Dieu ne veut plus de moi. Dieu ne m'a pas mis à part. Je ne peux plus être sauvé. J'ai passé à côté du pardon le jour où. » Et ce genre de raisonnement a fait que certains se sont même suicidés à cause de ces pensées. Et avec Charles, il y a plus de 20 ans, nous avons eu un cas à Champagnole d'un jeune homme qui s'est suicidé parce qu'il pensait que Dieu ne le voulait plus. Quel orgueil mal placé de penser cela. Ses amis se placent au-dessus de la volonté de Dieu qui veut que tout soit sauvé. C'est ce que la Bible déclare. Si nous regardons de près l'histoire de David et d'Abraham, ils ont fait des choses alors qu'ils étaient au service de Dieu, alors qu'ils étaient bénis par Dieu, alors qu'ils étaient sous le regard de Dieu, eh bien ces deux hommes ont fait des choses, je pense, bien pires que ce que nous avons pu faire, même à l'époque où nous n'étions pas convertis, à l'époque où nous perdions notre temps dans le monde. Alors s'il se trouve parmi nous ce matin un ou une amie qui pense que Dieu ne peut plus rien faire pour lui ou pour elle, que cet ami soit convaincu que cette pensée ne vient pas de Dieu. Dieu veut notre salut. Dieu veut votre salut. Mais votre salut passe par la repentance, point final. Tout le reste vient du mal. Tout le reste, c'est Satan qui nous le souffle. Le salut est un choix personnel. Et c'est le choix que Dieu attend que nous fassions, quel que soit notre passé. Demandez à Dieu de vous donner par son esprit d'aimer les choses du ciel et de faire mourir en vous ce qui vient de la chair. Demandez à Dieu de transformer vos pensées et de déplacer vos désirs et de changer vos valeurs, et cela se réalisera. Alors, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Nathan. Mais ce que je vous ai dit ce matin, c'est le fruit de près de 50 ans de conversion. C'est le fruit de près de 50 ans d'écoute et de mise en pratique des conseils de mes sœurs et de mes frères aînés dans la foi. Beaucoup d'entre eux se sont endormis dans le Seigneur, et pour moi viendra également ce moment de passage d'un royaume à l'autre. Mais j'en suis persuadé. D'autres diront ce que j'ai dit ce matin, parce que comme moi, ils l'auront reçu et ils auront été touchés par la grâce. C'est aussi le plan de Dieu que la connaissance passe de l'un à l'autre, que la connaissance passe par les uns et par les autres au cours du temps. Les anciens m'ont appris une grande chose, c'est à me repentir dès que je chutais, et cela m'est arrivé souvent. Ils m'ont appris à prendre un temps de quotidien pour m'examiner devant Dieu dans la prière. Ils m'ont appris à me nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Ils m'ont appris aussi à me confier de mes faiblesses avec certains frères en qui j'avais confiance. Ils m'ont aussi appris à écouter les frères. Ce sont là quelques principes mis en place dans ma vie et qui m'aident à lutter et surtout à vivre ma vie dans la lumière de l'Évangile. Et je suis infiniment reconnaissant envers mes frères aînés qui m'ont transmis ces précieux conseils tôt dans ma vie chrétienne. J'en ai tellement eu souvent besoin. Alors ce que je souhaite ce matin, bien, c'est que, avec la repentance, Dieu fasse que dans nos cœurs, Dieu fasse que dans vos cœurs, nous prenions, vous preniez aussi ces bonnes résolutions. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous as laissé au travers de ta parole bien des témoignages d'hommes que s'ils ont été des champions dans la foi, ont pu aussi avoir leur grand moment de faiblesse. Et au travers de leurs témoignages, tu nous montres que nous ne sommes pas supérieurs à eux et que nous restons faibles. Tant que nous ne serons pas dans leur royaume, nous ne serons que des hommes qui auront leur moment de grande foi, de grande confiance, mais aussi de faiblesse énorme. Et merci Seigneur, parce que tu nous montres que des hommes qui étaient bien plus forts que nous, des hommes qui sont devenus des témoins, des pierres vivantes dans l'Évangile, eh bien, ont eu des faiblesses, qui nous permet à nous aussi, Seigneur, de pouvoir dire que bien, nous ne sommes pas supérieurs, et que nous aussi, nous passerons par de tels moments. Veulent faire en sorte que, si cela nous arrive, eh bien, que plutôt d'avoir un orgueil mal passé, nous puissions véritablement nous tourner vers toi, nous repentir, courber les chines et accepter que tu crées en nous un cœur pur et renouvelles en nous un esprit bien disposé. Amen.